Faire une cruelle confession, je milite pour la frustration dans chacune de ces émissions. La frustration d'une demi-heure, plutôt que de faire plus long. La frustration qui consiste à laisser l'auditeur sur sa faim, sur des points de suspension. La frustration qui repose sur le refus de ma part d'épuiser un roman, un album, un spectacle, pour inciter justement celles et ceux qui écoutent à aller plus loin, par leurs propres moyens, à l'heure du tout, tout de suite, à l'heure où il suffit d'un moteur de recherche pour avoir une réponse en quelques secondes. Je milite au contraire pour la perplexité, pour le tâtonnement, pour l'incertitude, pour tout ce qui résiste à l'assouvissement permanent de désir, parce que c'est cela qui permet de créer du désir, précisément. Une frustration heureuse qui repose sur le questionnement permanent, un point d'interrogation qui en appelle un autre, puis un autre, puis un autre. Et tant mieux si jamais l'invité vraiment ne répond. Tant mieux s'il ne sait pas répondre, s'il est impossible pour lui de formuler une affirmation. Tant mieux, ça arrive, s'il me retourne une question. Au moins, on aura résisté quelques minutes à notre façon, à cette injonction permanente aujourd'hui de la satisfaction. Je milite pour la frustration parce que sans elle, il n'y a plus de manque, il n'y a plus d'attente, il n'y a plus ce plaisir infini qui consiste à chercher et à trouver parfois ce qui n'aurait aucune valeur si c'était à portée de main. Une frustration heureuse qui est l'acceptation de nos limites dans la vie de tous les jours et qui triomphe quand on me dit encore, ou même parfois ça arrive, c'est trop court.
Boomerang. Boomerang. Augustin Trapenard.
Bonjour à tous, bienvenue. Dans Boomerang, mon invité d'aujourd'hui a-t-il la frustration heureuse, professeur émérite de littérature française au Collège de France, mais aussi écrivain. On lui doit également, sur cette chaîne, d'avoir passé de beaux étés avec Montaigne, Baudelaire, Pascal ou Colette. Cette rentrée, il a fait paraître La vie derrière soi, une brillante et crépusculaire méditation où il s'interroge encore et toujours sur le sens et sur la visée de la littérature. Bonjour Antoine Compagnon.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Qu'est-ce qu'il y a de bon dans la frustration, tiens?
Ben justement que ça fait réfléchir, c'est la morale de 45 années d'enseignement. Il faut que les étudiants sortent d'un cours avec des questions plutôt que des réponses.
Oui, vous parlez volontiers de la littérature et de l'enseignement comme d'art de la déception. Qu'est-ce que ça veut dire exactement?
Ben, ça veut dire qu'on en veut toujours plus. Moi, j'ai enseigné avec bonheur pendant longtemps. Je le fais encore aux États-Unis maintenant. Et j'espère que mes étudiants sortent de mes cours avec le sentiment qu'ils n'ont pas tout appris, qu'il y a encore quelque chose à apprendre.
Cela dit, je le disais, des questions, on en a toujours, il suffit de taper une question dans un moteur de recherche pour obtenir aussitôt une réponse. Ce qui m'intéresse, c'est plutôt le statut de l'interrogation. Quel est le statut de l'interrogation aujourd'hui?
Ah ben, elle est infinie. Elle est infinie. Et justement, vous dites, on a les réponses tout de suite, mais ça part en cascade. On veut toujours en savoir plus et puis on doute de ce que l'on lit sur l'écran et sur tous les moteurs de recherche. Donc, je crois que c'est encore pire du point de vue de cette perplexité. Je me rappelle l'époque où on errait dans les couloirs des bibliothèques pour faire une note d'une édition savante. Maintenant, on se perd pendant des journées entières dans les méandres d'Internet.
Qu'est-ce qui se passe, Antoine Compagnon, quand on cesse de s'interroger, en fait, quand les certitudes prennent le pas sur la perplexité?
Oh ben, je pense que on devient vieux. Mais c'est un peu la question que je pose dans ce livre. Comment surmonter cette étape de la vie?
Et comment entretenir aussi le goût de l'interrogation? Comment le transmettre? C'est une vraie question, ça.
Bah, c'est tout le défi de l'enseignement. Comme je vous disais, je crois que j'ai été heureux dans ce métier. Je savais pas que ça serait mon métier, puisque je m'étais préparé à autre chose. Et c'est seulement peu à peu que je me suis rendu compte que c'était le destin.
Pour quelle raison, à votre avis, le monde semble-t-il si avide de réponses, avide de certitudes, particulièrement aujourd'hui?
Bon, est-ce que c'est différent du passé? On a toujours voulu des certitudes. Le doute, c'est l'inquiétude. Hein. On cherche, comme disait Pascal, on voudrait une assiette, on voudrait une base solide, et puis on s'aperçoit qu'on ne l'obtient jamais, cette base solide. Et le doute, vous savez, bon, j'ai parlé de Montaigne beaucoup. Montaigne, c'est l'incarnation de ce doute permanent. Évidemment, pour Montaigne, il y avait une limite. cette limite, c'était la foi. Peut-être que nous n'avons plus de limite et que nous pouvons douter de tout.
Précisément, vous, en quoi est-ce que vous croyez, Antoine Compagnon ?
Ah ben, je crois encore au savoir. Je crois à la connaissance et je crois à la vérité de la connaissance. Donc, je continue à mener des travaux de recherche et c'est ça que j'essaye d'apprendre à mes étudiants.
Et Dieu, Dieu dans tout ça, comme disait l'autre une fois.
Écoutez, j'ai eu une éducation catholique, hein, j'ai eu comme beaucoup de petits Français, et cette éducation catholique, j'ai pris des distances avec elle au cours de mon adolescence, et c'est une question qui ne s'est plus posée depuis mon adolescence.
Jamais vous n'avez perdu foi en littérature ?
En la littérature, non. Je crois que cette foi... je l'ai toujours et que je l'aurai jusqu'au bout. J'aime lire et relire des livres que j'ai déjà lus et qui sont différents à chaque fois.
Et en quoi vous aide-t-elle la littérature à mieux vivre, Antoine Compagnon, à mieux supporter les épreuves auxquelles vous êtes confronté encore aujourd'hui ?
C'était le sens de ma leçon inaugurale au Collège de France.
Il y a 15 ans.
Et je maintiens toujours que la littérature, c'est ce qui permet de s'armer dans la vie. Moi, j'ai appris, je dis toujours que j'ai presque tout appris dans Le Rouge et le Noir, que j'ai lu lorsque j'avais 14 ans. Dans Le Rouge et le Noir, j'ai appris...
Le meurtre, nous dit-il.
J'ai appris ce que c'était que l'amour et j'ai appris ce que c'était que le pouvoir. Et bon, est-ce qu'il y a de plus grande leçon que ces deux-là? Et je pourrais ajouter d'autres livres, l'éducation sentimentale. Voilà des livres dans lesquels on a tout appris à l'âge de 15 ans.
Vous dites pour autant aujourd'hui que c'est le goût de la lecture qu'il est urgent de défendre.
Parce que nous lisons tous moins. Moi-même, je lis moins. Au cours de cet automne, il m'est arrivé, c'était l'une des premières fois, de regarder des séries télévisées.
Allons donc.
Et des séries télévisées, ça prend beaucoup de temps. Et c'est intéressant parce que ce sont des romans. Et donc, je suis comme tout le monde. Évidemment, je lis moins.
C'est
vrai que l'écran n'a pas tué la lecture parce que nous lisons beaucoup sur écran, mais nous ne lisons pas la même chose, pas les mêmes choses. Non, il y a des choses qui sont fascinantes dans ces transformations. Nous recevons des messages des collègues les plus armés, les plus érudits, et c'est plein de fautes d'orthographe.
Mais ça ne veut pas dire, pour autant, que la littérature est perdue en puissance, en prestige, en légitimité, que sa place dans la société est moins importante que ce qu'elle a été par le passé, si ?
Oh, je pense que oui. Je pense que, il faudrait revenir sur le rôle de l'école, parce que à l'école, pendant très longtemps, moi-même, je fais encore partie de ces enfants de l'école quasi Troisième République, parce que la Quatrième République n'avait encore rien changé, où on apprenait beaucoup de récitations par cœur. J'ai appris beaucoup de Victor Hugo. Je ne sais pas si les enfants aujourd'hui à l'école primaire apprennent encore beaucoup de Victor Hugo par cœur, j'en doute. Donc il y avait dans cette éducation un culte des grands écrivains, qui avait remplacé le culte des saints de la religion catholique. Mais nous étions élevés dans la religion des grands écrivains.
Et c'est quelque chose qui se serait un peu effrité ?
Oh, je crois, tout à fait. Je crois que ça a complètement disparu, ce culte des grands écrivains, à l'école.
Dans votre dernier livre, Antoine Compagnon, vous interrogez les fins de la littérature. Ces fins que l'on peut donc entendre de différentes façons, comme des buts, comme des horizons, mais aussi comme des issues. À quoi ressemblerait un monde sans littérature ? Un monde dans lequel la littérature serait, pour ainsi dire, finie ?
Écoutez, je crois que ce serait un monde beaucoup plus fade et un monde, au fond, j'ai envie de dire, d'ignare. Parce que nous avons, comme je disais, nous avons tout appris dans la littérature. Mais au fond, ça vient Il faut penser qu'il y a eu quelques siècles qui datent des débuts de l'imprimerie. C'est entre l'imprimerie et aujourd'hui. Ce sont deux révolutions. La révolution du livre et puis la révolution du numérique. Pendant ces quelques siècles, au fond, on a tout appris dans les livres. Et bon, je parlais de Montaigne. On dit parfois que Montaigne, c'est vraiment la figure du lecteur. Montaigne, dans sa tour, avait toute la culture disponible à cette époque, alors que le livre imprimé était tout neuf. Mais il était là, il avait tout. Et on dit parfois, mais c'est une thèse à laquelle je crois, que l'individu moderne, c'est le lecteur. Montaigne, avec Montaigne et avec tous ceux qui ont suivi, l'identité, c'est celle d'un lecteur. C'est dans les livres que nous avons découvert notre identité. Et qui que nous soyons, même ceux qui lisaient peu, mais qui ont fréquenté l'école, c'est à travers les récits qui se racontaient. Et j'ai envie de dire, jusqu'à une date très récente, un individu, c'est un lecteur. Et c'est là qu'il a appris, je disais, l'amour, c'est là qu'il a appris le pouvoir. Aujourd'hui, nous sommes en train d'entrer dans un monde où l'individu ne sera pas nécessairement défini par son identité de lecteur.
Celle qui n'est jamais finie dans cette émission, vous la connaissez, c'est la culture et son actualité qui, tel le boomerang, finit toujours par nous revenir. Que se passe-t-il donc aujourd'hui, lundi 1er novembre ? Zimoulaga pour The Event, l'événement caritatif numérique a permis de récolter la somme record de 10 millions d'euros pour l'ONG Action contre la faim. Organisé tout le week-end sur la plateforme Twitch, ce marathon de jeux vidéo, d'animation, de défis de tout genre, soutenu par une cinquantaine de vidéastes, a pulvérisé tous les records d'audience en France et de dons en ligne. On y a vu des karaokés, des vols Montpellier-Moscou sur simulateur, des concours de citrouilles et Samuel Etienne. Un grand bravo a même tweeté Emmanuel Macron depuis le sommet du G20, plus un.
Il y a des bateaux qui sont bizarres. Moi, j'aime bien.
Ils s'appellent Mila, Inaya, Feriel, Nairi, Émile et Arthur. Et ce sont eux qui composaient cette année le jury de mon premier festival. Rendez-vous incontournable des cinéphiles en herbe. Après presque 10 jours de festivités, ils ont choisi de remettre leur prix du jury à Où est Anne Frank, la nouvelle réalisation animée de Harry Folman, à qui l'on doit notamment Valse avec Bachir. Dans le même temps, le festival a vu son prix du public et son prix de la musique originale attribué au beau documentaire Marcher sur l'eau d'Aïssa Maïga. Bravo les minots. Tout simplement the best, la queen du rock'n'roll, Tina Turner, a de nouveau été intronisée ce week-end au Rock'n'Roll Hall of Fame, genre de panthéon américain de la musique, une célébration dont elle avait déjà fait l'objet en 1991 en tant que membre du groupe Ike and Tina, alors que cette fois c'est uniquement pour sa carrière solo. Après Stevie Nicks de Fleetwood Mac et Carole King, Tina Turner devient ainsi la troisième femme de l'histoire de l'institution à être intronisée deux fois. Tina Forever.
Puisque vous espériez trouver le bonheur dans les livres.
Enfin, elle est belle pour l'échapper. Le Grand Prix des bibliothèques francophones, organisé par Livre Hebdo et marrainé cette année par Catherine Meurice, vient d'être remis à l'échapper. Près de Lyon, l'établissement a été récompensé tant pour la qualité de son accueil que pour sa politique d'animation, d'aménagement de l'espace et d'accès au numérique. Dans le même temps, le prix des bibliothécaires de l'année a été décerné par les lecteurs eux-mêmes à Charlène Rodrigue et Magali Vonnec de la médiathèque de Cavalère, pour leur travail de vulgarisation de la littérature sur les réseaux. C'est très beau. Et Antoine Compagnon, invité de Boomerang ce matin, pour parler de ce sujet qui vous occupe depuis toujours, la littérature. Et dans votre dernier livre, vous nous parlez notamment de ce qui peut pousser un écrivain à renoncer à l'écriture et donc à en finir avec la littérature. Au fond, comment peut-on cesser d'écrire ? Qu'est-ce qui peut pousser un écrivain à prendre sa retraite ?
Ben, il n'y en a pas beaucoup qui décident de cesser d'écrire. Bon, c'était l'une des questions que je me posais en commençant ce livre. Comment termine-t-on une carrière d'écrivain? Et le constat que je faisais, c'est qu'il y avait beaucoup sur les fins de carrière de peintres et de musiciens, parce que le corps est beaucoup plus impliqué dans la peinture et dans la musique. Beethoven devient sourd, Titien souffre de la cataracte, donc il y a des incapacités physiques.
Tandis que les écrivains,
s'ils ont leur tête, et puis il y a un moment où peut-être ils n'ont plus nécessairement toute leur tête, ils peuvent continuer à écrire. Il n'y a pas besoin de beaucoup d'énergie pour faire courir la plume sur le papier.
Diriez-vous, pour aller plus loin, qu'ils se bonifient même avec le temps?
Bon, alors, c'est, il y a deux thèses. Il y a la thèse qui dit que les écrivains, comme tout le monde, se dégradent avec l'âge. Et puis, alors, il y a la thèse que j'appelle du sublime sénile, qui voudrait qu'ils aillent vers l'essentiel. Et bon, ils vont certainement vers plus de brièveté, puisque on ne peut plus écrire la guerre et la paix à partir d'un certain âge. Mais justement, on supprime toutes les fioritures et on va à ce qui véritablement compte.
Mais renoncer à l'écriture, est-ce que c'est quelque chose qui vous a déjà effleuré l'esprit, vous, Antoine Compagnon ?
Écoutez, oui, bien sûr, parce que l'écriture, c'est difficile, c'est dur.
Qu'est-ce qui pourrait vous faire renoncer ?
C'est du travail. Qu'est-ce qui pourrait me faire renoncer ? Ben, l'idée que... Ben, je crois que... Bon, il faut se rendre compte que... Enfin, je veux pas exagérer, il y a des métiers qui sont beaucoup plus difficiles, évidemment. Mais l'écriture, ce n'est pas béni tous les jours comme travail.
C'est amusant, parce que à vous entendre écrire un livre, c'est pas vraiment une décision qu'on prend en plus. Un livre, c'est quelque chose qui vous tombe dessus.
Écoutez... Je crois que pour moi, c'est la seule manière de le vivre. Je n'ai jamais décidé d'écrire un livre. J'ai toujours constaté après coup qu'ils étaient faits.
Et alors, quand ça vous tombe dessus, un livre, ça fait mal ? C'est douloureux ?
Oui, ça fait mal. Parce qu'à ce moment-là, il faut véritablement s'y mettre. Il est quasi fait. Mais il faut encore tout le travail pour l'achever, pour le mettre sur le papier, pour le produire.
Et puis s'ajoute à cela quand même une vraie question. Est-ce que ce qu'on a à écrire, et donc à dire, présente de l'intérêt pour le lecteur ? Vous parlez, au sujet de l'enseignant, de la crainte que personne ne vienne vous écouter.
Bah, c'est une crainte que, je pense, tous ceux qui écrivent des livres partagent. quand on voit la production... immense de livres à chaque saison. Regardez les romans de la rentrée. Il y a très peu d'élus. Hein. C'est un winner takes all dans ce marché.
Alors il faut une drôle de confiance en soi.
Oui, ou une drôle d'inconscience.
Oui, dans l'un de vos précédents livres, L'âge des lettres, vous parliez de Flaubert qui disait qu'il fallait être un peu bête pour écrire un roman et pour le publier. Qu'est-ce qu'il voulait dire, selon vous ?
Ben oui, il faut être un peu naïf. C'est une thèse que j'ai souvent soutenue. Pour écrire, il faut être un peu bête. Si on est trop intelligent, eh bien on est comme le Monsieur Test de Valérie. C'est une thèse moderne qui est très très abondante et très célèbre, que le comble, le sublime, c'est le silence. C'est le silence de Rimbaud, c'est le silence mystique, c'est le quasi-silence d'un Blanchot.
Mais est-ce que ça vaut seulement pour celles et ceux qui écrivent des fictions, des textes littéraires, ou est-ce que c'est aussi le cas de ceux qui, comme vous, se consacrent essentiellement aux essais, aux leçons, à la recherche, Antoine Compagnon ?
Alors là, je pense qu'il faut être très modeste. Quand on fait de la recherche, quand on fait des travaux d'érudition, ben, il n'est pas nécessaire de se prendre pour un grand écrivain. C'est un travail de petite main. Et le travail de petite main, par exemple, le travail d'édition critique, qui est indispensable, il y a peut-être pas cette mystique que Flaubert, que nul mieux que Flaubert n'a développé. Donc pour Flaubert, oui, il y avait l'acceptation d'un certain degré de bêtise, non seulement pour écrire, mais surtout pour publier.
Au fond, à quoi reconnaissez-vous un grand écrivain, Antoine Compagnon ?
Bah, j'ai envie de dire au doute sur lui-même.
À son niveau d'inconscience aussi.
Pensons à Proust, hein, dont on n'a pas encore parlé, qui est l'un de encore voilà un écrivain chez qui j'ai beaucoup appris des choses de la vie. Proust se demande jusqu'au bout si ce qu'il fait est ce qu'il doit faire, jusqu'à la dernière nuit de sa vie. Il corrige son manuscrit. Et puis, il y a ces phrases extraordinaires au moment où il se met à écrire La Recherche, vers 1908, où il écrit dans son carnet « Suis-je romancier ?» Il ne le sait pas. Il faut que le livre soit produit, soit publié, soit lu par ses amis, puis par le public, pour finalement qu'il le reconnaisse et qu'il admette qu'il a écrit un roman.
On va reparler de tout cela juste après un titre que vous avez souhaité entendre ce matin, Gainsbourg, Dr. Jekyll et Monsieur Hyde, on est dans le thème, en 1966, et puis sur l'album Be Initials en 1968. Vous êtes sur France Inter avec Antoine Compagnon, vous écoutez Boomerang, évidemment.
Non, je ne suis pas le Dr. Jekyll. Mon nom est Hyde, Mr. Hyde. Dr. Jekyll, il avait en lui un Monsieur Hyde qui était son mauvais génie. Mr. Hyde ne disait rien, mais en secret n'en pensait pas moins. Je vous dis que je ne suis pas le Dr. Jekyll. Mon nom est Hyde, Mr. Hyde. Dr. Jekyll n'a eu dans sa vie que des petites garces qui se foutaient de lui. Mr. Hyde, dans son cœur, prenait des notes pour le docteur. Dr. Jekyll.
Hello, Dr. Jekyll.
Mon nom est Hyde, Mr. Hyde.
Dr. Jekyll un jour a compris que c'est ce Monsieur Hyde qu'on aimait en lui. Mr. Hyde, ce salaud a fait la peau du Dr. Jekyll.
France Inter, Boomerang, Augustin Trapenard.
Il est beaucoup moins Dr. Jekyll et Monsieur Hyde que Tintin et Milou, en fait, le cheveu intègre, abondant et doux, l'œil Indiana Jones derrière sa lunette belgophile, et cet enthousiasme communicatif tout en main et tout en sourire avec son col roulé noir ce matin, le professeur et écrivain Antoine Compagnon, invité de Boomerang, pour parler de littérature, mais aussi peut-être d'enseignement. En janvier dernier, vous avez donné votre dernier cours au Collège de France, vous continuez d'enseigner à Columbia, aux États-Unis, je crois. Quand est-ce que l'enseignement est devenu pour vous une évidence?
Bon, j'ai pas fait des études littéraires, donc je me suis retrouvé professeur un peu par hasard. Donc je savais pas que c'était ma vocation. Je m'en suis rendu compte assez vite en enseignant que j'étais heureux dans ce métier. Bon, évidemment, j'ai jamais enseigné dans le secondaire puisque c'était pas ma formation.
Mais vous savez, moi, ça me fascine. Vous dites qu'en plus de 45 ans d'enseignement, vous ne vous êtes jamais ennuyé.
Oui, c'est vrai. C'est vrai parce que j'ai toujours utilisé l'enseignement pour lire des choses nouvelles. Et du coup, ça a toujours été une sorte de liberté par rapport à la recherche, justement.
Puis c'est un lieu d'échange aussi, de contact, de dialogue avec des étudiants, avec une certaine jeunesse, je
voilà,
suppose.
Voilà, et encore aujourd'hui, en ce moment, puisque je fais un séminaire avec des étudiants jeunes à Columbia, bon, j'essaye de choisir avec eux le programme pour que le programme soit composé de livres que je n'ai pas lus ou pas relus depuis très longtemps.
Alors justement, ça doit être passionnant d'enseigner aux États-Unis, dont on nous dit que c'est un pays qui nous envahit intellectuellement. Antoine Compagnon, en ce moment, quelle expérience culturelle est-ce que c'est pour vous?
Écoutez, je ne me sens pas encore très affecté par tous ces mouvements que l'on nous décrit à Paris comme venant d'Amérique. J'ai l'impression d'avoir des étudiants qui demandent de la littérature, qui n'ont pas renoncé à lire des textes classiques, puisque je leur parle de Baudelaire ou de Pascal ou de Proust. Et en vérité, je me sens encore très libre dans mon enseignement et je lis des textes dans la presse en France qui ont l'air de très inquiétants sur ce qui se passe dans les universités américaines, et c'est pas pour le moment tout à fait mon expérience.
Je dirais CQFD. Quel jeune est-ce que vous avez été, vous, Antoine Compagnon?
Bon, j'étais un jeune, bon, sans doute assez rebelle. Bon, c'était autour des années 68, 70.
Comment ça, rebelle?
Bah, à l'époque, on était un petit peu politisé, un petit peu, un peu agité, quoi.
Ouais, j'ai cru que vous alliez encore m'annoncer que vous aviez volé des livres, comme c'est le cas de plusieurs des invités de Boomerang en ce moment.
Ah non, j'ai jamais volé de livres. J'ai acheté, au contraire, beaucoup de livres à la librairie Maspero, la joie de lire. Tout le fond de ma bibliothèque vient de là, et je n'ai jamais volé un livre chez Maspero, alors que on a dit que la librairie avait dû fermer à cause des vols qui y étaient commis.
Je vous remercie.
Au contraire, j'ai beaucoup investi dans Maspero.
Je vous remercie de le préciser aujourd'hui. Mais c'est intéressant ce que vous dites, que vous avez grandi, vous étiez un jeune d'une certaine époque. La France d'aujourd'hui, quelle perspective avez-vous le sentiment qu'elle offre pour la jeunesse, justement, particulièrement en ce moment, à quelques mois d'une élection présidentielle dont on entend déjà beaucoup parler? Trop, peut-être.
Écoutez, là, je débarque de New York, donc je vois l'humeur à Paris, et c'est vrai que je ressens, dans les conversations que j'ai, une certaine inquiétude dans cette campagne présidentielle qui commence. Et pour moi, avant de venir, c'était pas un sentiment que je partageais. Mais c'est vrai que j'espère que les jeunes se précipiteront aux urnes dans l'élection qui va venir.
Justement, il se trouve que c'est un texte sur le vote que vous nous avez écrit ce matin. Un texte pour le moins surprenant, mais passionnant, et j'aimerais que vous nous le lisiez.
L'autre nuit, ne dormant pas, je me suis demandé pour qui j'avais bien pu voter en 1969. Pompidou ou Poher? Blanc bonnet et bonnet blanc, disait Jacques Duclos, candidat du PCF. Ou Rocard, Defer, Krivine. Je me creusais la tête sans retrouver le sommeil, et c'est seulement au matin, plus alerte, qu'il m'est revenu à l'esprit que je n'avais pas voté. En 1969, je n'avais pas 21 ans et la majorité n'était pas encore à 18 ans. Je n'ai pas eu à choisir entre blanc bonnet et bonnet blanc au second tour. Mais depuis que j'en ai eu le droit, je me suis toujours rendu aux urnes. J'ai peut-être raté un ou deux scrutins européens ou régionaux en 50 ans, mais c'est bien tout. En 1995, quand Jacques Chirac a dissous l'Assemblée, j'ai retardé un départ au Japon pour exprimer mon suffrage avant de me rendre à l'aéroport. Si je m'en souviens, c'est que juste avant d'atterrir à Tokyo, le pilote ouvrit son micro pour nous annoncer les résultats. Nous tombâmes des nues, ce qui est heureusement une façon de parler. En avril 2002, j'ai écourté un séjour à New York pour accomplir mon devoir électoral. Si je ne l'ai pas oublié, c'est que j'appelais aussitôt des amis pour passer une soirée télé, mais la plupart n'avaient pas raccourci leurs vacances. J'ai été un électeur assidu, tout en sachant que ma voix n'y changeait rien. Longtemps, les intellectuels ont peu voté. Brunetière, le directeur très conservateur de la revue des Deux Mondes durant l'affaire Dreyfus et la séparation, n'était pas inscrit sur les listes électorales. Mallarmé fit une exception en allant déposer un bulletin pour le général Boulanger en 1889, sous la pression de sa fille. Sartre ne s'est pas déplacé en 1936 pour donner son suffrage au Front populaire. Mon explication, c'est que les intellectuels pensent, au vu de leur capacité, qu'ils mériteraient plusieurs voix. Comme dans ces pays où un chef de famille pouvait naguère en détenir jusqu'à quatre. Vichy y avait pensé. Peut-être certains intellectuels regrettent-ils le suffrage capacitaire de la monarchie de Juillet, qui conditionnait le droit de vote à des diplômes ou épreuves. En Grande-Bretagne, les professeurs ont longtemps pu voter deux fois, dans la circonscription de leur établissement et dans celle de leur résidence. Depuis 50 ans, je suis un bon petit électeur, mais dois-je continuer? N'est-il pas temps d'arrêter? Depuis la dernière élection présidentielle, j'ai pris ma retraite. La surreprésentation des vieux dans tous les scrutins fausse la représentation nationale. Les jeunes boudent les urnes et les vieux pèsent trop sur l'avenir. Je ne suis pas pour le droit de vote dès 16 ans, mais si l'on me retirait ma carte électorale, je me laisserais faire. Et je suis prêt à y renoncer dès à présent si 3, 6, 9, 12, disons 7 jeunes gens et jeunes filles s'engagent à me remplacer au bureau de vote. Ainsi aurais-je restauré le vote plural.
Je vais vous dire, Antoine Compagnon, au-delà évidemment du goût pour l'investissement politique, qu'il s'agit de redonner, ce qui me passionne dans votre texte, c'est la manière dont vous semblez prendre en compte le décalage entre les intellectuels, la société et la jeunesse. L'intellectuel qui serait, à vous entendre, par complexe presque de supériorité, un peu dans d'autres sphères, pour ne pas dire hors sol. Je me trompe ?
Non, c'est un peu ça que je sens. C'est pour ça que je voudrais rappeler qu'il y a une tradition des intellectuels qui ne votent pas. C'est seulement assez récent qu'ils se soient convertis au vote, et en fait je ne suis pas sûr qu'ils soient tous convertis, parce qu'ils considèrent qu'ils pèsent plus par les tribunes libres qu'ils peuvent écrire ici ou là, et qui à leurs yeux valent plusieurs bulletins.
Alors, ce sera ma dernière question. Quel rôle devrait jouer l'intellectuel aujourd'hui ?
C'est un peu ce que je suis en train de dire là. Il voudrait encourager la jeunesse à se manifester à travers leur vote lors des prochaines élections. Je crois que c'est ça. C'est pour ça que je dis que, au fond, je suis prêt à renoncer à mon vote si beaucoup de jeunes vont voter à ma place.
Je crois qu'on vous a entendu. Merci infiniment, Antoine Compagnon, d'être venu faire un tour dans Boomerang. Je rappelle que La vie derrière soi est publiée aux éditions des Équateurs. J'invite par ailleurs les auditeurs à se replonger dans vos chroniques d'été savoureuses, disponibles à la réécoute sur le site de France Inter. Et tout de suite, c'est l'heure des médias, l'Instant M, avec Eva Rock, toute cette semaine, juste après ça. Damon Albarn, Royal Morning Blue, 9h40 sur France Inter, et tout de suite Eva Rock, l'Instant M. Salut Eva.